Merci Fabrice, content d'être avec vous les amis pour passer ce moment ensemble et vivre ce culte de Noël ensemble à distance comme d'habitude. On a eu l'habitude cette année de faire un peu cela. Et on va avoir une réflexion maintenant autour de ce texte qu'on a lu dans Luc 2. Je dis d'entrée que la réflexion sera surtout sur l'annonce des anges aux bergers dans les versets 10 à 12. C'est surtout là qu'on va se concentrer pour essayer de comprendre un peu plus par rapport à la naissance de Jésus. Je pense qu'on a assez répété cette année que l'année a été anormale et que Noël, cette année aussi, est anormale. On n'aurait jamais imaginé vivre un Noël comme on est en train de le vivre. Mais malheureusement, c'est la réalité, on doit faire avec. Et on peut se demander, mais est-ce qu'il reste encore quelque chose de Noël cette année, alors que tout a été chamboulé, alors que tout a changé? Si vous vous souvenez, pour ceux qui font partie de notre église, si vous étiez là l'année dernière, notre culte de Noël, on était ici dans ce bâtiment, mais on était tous entassés les uns sur les autres. Alors c'était avant le Covid et tout ça, mais on avait une belle fête de Noël, c'était magnifique. Il y avait une chorale qui avait chanté, il n'y avait même pas assez de place devant. Du coup, il y en avait qui étaient par terre, il y avait des enfants qui étaient assis avec les tapis devant, c'était vraiment magnifique. Un beau moment de Noël. Et on a eu un repas même le soir, le dimanche soir, on a pu manger tous ensemble, on se marchait les uns sur les autres, c'était vraiment génial. Mais cette année, on ne peut pas vivre tout ça, on est privé de vivre tout ça. Et même de manière plus large, Noël sera très différent pour la société, pour chacun de nous. Il n'y a pas de marché de Noël cette année à Sainte-Catherine. Oui, il y a quand même un sapin sur la Grande Place et une crèche qui a été installée sur la Grande Place. Mais Noël va être vraiment différent. Pour beaucoup, on ne peut pas voyager, voir la famille qu'on voyait d'habitude, passer du temps avec ceux qu'on aime. Et on peut se demander, est-ce qu'on peut vraiment se réjouir de Noël? Est-ce qu'il reste quelque chose de Noël? J'aimerais qu'on voit ensemble que c'est peut-être l'occasion pour nous de revenir à la simplicité de Noël et de réaliser la joie que représente la venue de Jésus dans ce monde et de réaliser combien cette joie est suffisante pour nous combler. Et donc, on va focaliser nos regards sur la naissance de Jésus ici, à partir de ce texte, en se posant trois questions. Qui est né? Pourquoi est-il né? Dans quelle raison? Et dans quel but? Pour quelle raison il est né? Et pour qui est-ce qu'il est né? Et donc, c'est ça qu'on va parcourir ensemble, se poser ces questions, pour voir ce que ça peut nous enseigner pour nous aujourd'hui, dans cette période particulière qu'on vit. Donc, première question, qui est né? Alors vous allez me dire, c'est facile cette question, c'est Jésus qui est né. Oui, c'est une bonne réponse, mais on voit qu'il y a plus de détails qui sont donnés ici dans ce texte, au verset 11. Les anges annoncent à ces bergers, qu'est-ce qu'ils disent? Verset 10, « N'ayez pas peur, car je vous annonce la bonne nouvelle du grande joie qui sera pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. » Ce petit bébé qui est né, c'est le Christ. Ou le Messie, c'est le même mot. C'est pour ça qu'on appelle souvent Jésus, Jésus-Christ. Ce n'est pas son nom de famille, mais c'est son titre. Il est le Christ, il est le Messie. Et le Messie, c'est le Sauveur qui avait été promis par Dieu dans l'Ancien Testament, la première partie de la Bible, et qui devait venir pour délivrer le peuple de ses péchés. Et c'est le Sauveur qui était tant attendu, année après année, siècle après siècle. On attendait enfin que le Messie vienne. Et cette attente, c'est un peu comme quand on attend d'ouvrir nos cadeaux à Noël quand on est petit. Je me souviens que quand j'étais petit, moi, à Noël, j'aimais tout de Noël, sauf ça, devoir attendre avant d'ouvrir ses cadeaux. Et nous, notre tradition dans la famille, c'était de faire ça le 24 au soir. Et vous pouvez être sûr que chaque année, le 24, à partir du moment où il faisait nuit, toutes les 30 minutes, j'allais demander, est-ce que c'est maintenant qu'on ouvre les cadeaux? Est-ce qu'on peut ouvrir les cadeaux? Non, c'est pas maintenant, il faut attendre. Bon, ok, j'attends. Et j'attendais, quand enfin, après beaucoup d'impatience, on pouvait ouvrir les cadeaux, ben là, c'était la joie. C'était vraiment le moment qui était attendu. Ben, l'attente du Messie, vis-à-vis du Messie, c'est un peu ça, mais en beaucoup plus grand. Il ne s'agit pas d'une attente de quelques heures, mais d'une attente de centaines d'années. Il ne s'agit pas d'attendre un cadeau qui donnera un petit plus à notre vie, mais d'attendre la délivrance que chaque être humain a désespérément besoin. Dès le tout début de l'histoire de l'humanité, après la chute d'Adam et Ève, Dieu avait promis que quelqu'un allait venir pour renverser les effets du péché humain, pour renverser les effets de la rébellion humaine, pour rétablir une bonne relation entre les êtres humains et leur Créateur, pour apporter la paix, pour apporter la délivrance, pour apporter la liberté. Et tout le long de la Bible, alors qu'on lit l'Ancien Testament, alors que l'histoire se déroule, on se demande, mais qui va être cette personne-là? Quand est-ce qu'il va venir? Et on voit qu'aucun être humain ne donne la vraie délivrance au peuple. On met nos espoirs sur quelqu'un et puis on est déçu. Et on a eu l'occasion de voir ça avec notre étude du livre de la Genèse, le premier livre de la Bible. Nos espoirs, les feux des projecteurs sont mis sur quelqu'un. Et non, ce n'est pas lui qui apporte la vraie délivrance. Et on voit même, plus loin que ça, que la condition de l'humanité va de pire en pire et qu'il y a désespérément besoin d'une solution. On veut, on attend que le Messie vienne. Et là, des centaines d'années après tout ça, on a des anges qui annoncent à des bergers dans un champ, « Ça y est, il est arrivé, il est là, le Messie est né. » Enfin, on pousse un ouf de soulagement. Et on doit saisir la joie, le soulagement que représentent ces mots. Enfin, ce qui était tant attendu par le peuple est arrivé, celui que Dieu avait promis. Dieu est fidèle et il a tenu ses promesses. Ce soulagement, c'est qu'il faut ressentir et que le peuple devait ressentir, que le peuple ressentait, c'est un peu ce que nous, on ressentirait si demain, on lisait en gros titre à la RTBF « Le coronavirus a disparu ». Ça y est, vous pouvez voyager tranquillement pour Noël, aller où vous voulez, vous pouvez vous réunir à autant de monde que vous voulez, c'est juste un lointain souvenir, vous pouvez serrer vos proches dans les bras, c'est la fin de la crise sanitaire. Ce serait un soulagement, n'est-ce pas ? C'est quelque chose qu'on attend depuis plusieurs mois et qui nous concerne profondément. Et bien là, c'est la même chose, en beaucoup plus grand, en beaucoup plus attendu, en beaucoup plus glorieux. Le Messie est né. Et ce qui est surprenant par rapport à ce Messie, c'est qu'il naît dans la simplicité. Regardez ce qu'il est dit au verset 12. « Et ceci sera pour vous un signe, vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Puisque ces anges annoncent la naissance du Messie, celui que tout le peuple attendait, on aurait pu s'attendre à ce qu'ils disent quelque chose comme « Allez au centre-ville de Bethléem, dans le palais le plus impressionnant, là vous verrez la garde royale, vous verrez la fanfare et rentrez dans ce palais, allez dans la salle la plus impressionnante du palais et là devant le trône, là vous verrez le Messie. » Là, vous trouverez le Messie. Non, ici, le Messie est couché dans une mangeoire, utilisée pour les animaux. Au verset 7, on a lu que Marie et Jésus et Joseph sont là parce qu'il n'y avait plus de place pour eux. C'est un peu difficile de savoir où ils étaient exactement, on ne va pas rentrer dans les détails ici, mais probablement, ils étaient chez des amis, dans la salle principale. Et c'était courant à l'époque que dans cette pièce, non seulement la famille dorme, les invités, s'il n'y avait plus de place dans la salle des invités, mais aussi certains animaux. Et donc Jésus, le Messie, un petit bébé, est couché dans une mangeoire. Il est né dans la simplicité. Donc ici, c'est plutôt, vous voulez trouver le Messie ? Oui, allez dans une petite ruelle sombre d'un coin paumé de Bethléem. Là, il y a une petite maison où vit une famille que personne ne connaît. Et c'est là que vous trouverez le Messie. C'est là que Jésus est né. Alors qui est né ? Le Sauveur, le Messie, que le peuple attendait. Mais il est né dans la simplicité. Et on pourrait se demander, mais pourquoi une naissance dans une telle simplicité ? Pourquoi ne pas avoir déroulé le tapis rouge de manière encore plus visible ? Bien, ça nous amène à notre deuxième question ce matin. Pourquoi est-il né ? Pour quelle raison, dans quel but Jésus, le Messie, est né ? Et il faut se poser cette question pour réaliser que ce qui est une bonne nouvelle, ce n'est pas tant la naissance de Jésus en tant que tel, mais c'est plutôt la raison pour laquelle il est né, ce qu'il va accomplir par sa vie plus tard. Et donc cette naissance dans la simplicité nous montre que ça ne s'arrête pas là. Ce n'est pas fini, l'histoire n'est pas terminée, ça ne s'arrête pas à la naissance de Jésus. Et ici, je voudrais vous spoiler un petit peu la vidéo du calendrier de l'Avent qui sortira le 24. Donc dans l'Église, on fait, si vous ne savez pas, un calendrier de l'Avent. Où chaque jour, il y a une famille ou un membre de l'Église qui prépare une vidéo de plus ou moins 2 minutes pour l'Avent par rapport à la naissance de Jésus. Et donc, on a préparé avec mes magnifiques colocs Moïse et Noah la vidéo du 24 et je vous spoil ça un petit peu. Mais on met en scène dans cette vidéo, Noah, il sort de chez lui et puis il a oublié ses clés. Mince. Et donc, il est bloqué en dehors de chez lui sans ses clés. Mais bien sûr, il appelle un serrurier et Moïse arrive en tant que serrurier vraiment bien habillé. Je vous encourage à regarder ça, c'est vraiment un beau déguisement. C'est une bonne nouvelle. Voilà, Moïse est arrivé, le serrurier, il va pouvoir lui ouvrir la porte. Mais ce qui se passe, c'est qu'au lieu d'ouvrir la porte, Moïse se met juste à parler avec Noah, à discuter, à échanger des nouvelles, etc. Et puis Moïse repart sans avoir ouvert la porte et Noah est toujours bloqué chez lui devant la porte. Alors on est d'accord, c'est un peu tiré par les cheveux, c'est un peu exagéré, mais ça permet de montrer que ce qui est une bonne nouvelle, c'est pas tant la venue du serrurier en tant que tel, mais c'est la raison pour laquelle il vient. C'est parce qu'il vient pour, normalement, ouvrir la porte à Noé pour une raison précise. Eh bien, ce serait la même chose qu'un serrurier qui vient pour ne pas ouvrir la porte si on s'arrêtait juste à la naissance de Jésus. Une scène vraiment sympathique, Marie avec un petit bébé, les bergers, les mages, le petit Jésus au milieu de tout ça, une belle musique calme de Noël. Mais si on s'arrête là, on passe totalement à côté de la raison pour laquelle Jésus est venu, de ce qui fait que la naissance de Jésus est une bonne nouvelle. Dans le verset 11, il nous est dit ceci, « Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. » Pourquoi est-ce que Jésus est venu? Pourquoi est-ce que le Messie est venu? Il nous est dit ici qu'il est venu comme sauveur. Et il est venu pour sauver des gens qui avaient profondément besoin d'être sauvés. Et c'est seulement si on réalise cela que Noël, que la naissance de Jésus sera une bonne nouvelle pour nous. Maintenant, un peu d'imagination de votre part. Imaginez que l'année prochaine, vous décidez de passer Noël dans un pays chaud, où il fait chaud. Je ne sais pas, vous choisissez le pays, en Amérique du Sud, en Afrique ou en Australie, où vous voulez. Mais vous êtes là-bas pour le jour de Noël. Vous dites, bah, tiens, je vais aller nager dans la mer. C'est pas courant de faire ça. Et donc, vous êtes en train de nager dans la mer. Et là, alors que vous êtes en train de nager, tout d'un coup, il y a un sauveteur qui se jette sur vous, qui vous attrape par ses bras, qui vous met une bouée autour du cou et qui vous ramène jusqu'au rivage. Et là, probablement, vous lui diriez, mais monsieur, qu'est-ce que vous faites? Je vais bien, je ne suis pas en train de me noyer, je n'ai pas besoin d'un sauveteur, je n'ai pas besoin d'être délivré. Alors là aussi, c'est un peu exagéré, on est d'accord, mais peut-être que vous réagissez un peu pareil par rapport à Jésus. Jésus est venu comme sauveur, mais pourquoi? Je vais bien, merci, ça va, je n'ai pas besoin d'un sauveur, je n'ai pas besoin d'être sauvé. Mais la réalité, c'est que nous ne sommes pas tranquillement en train de nager au bord de la mer. Selon ce que la Bible dit sur la condition de l'être humain, sur la condition de notre cœur, nous sommes plutôt en train de nous noyer au fond de l'océan. Et nous avons profondément besoin, désespérément besoin d'un sauveur. Chacun de nous, nous avons des regrets profonds, des choses que nous avons faites, et nous savons très bien que nous n'aurions pas dû les faire. Ou des choses que nous aurions dû faire et que nous n'avons pas faites. Chacun de nous, nous avons des pensées que l'on veut cacher aux autres. Parce que comme la Bible le dit, nous sommes tous pécheurs. Et cela veut dire pas simplement coupable d'avoir fait du mal envers les autres, mais avant tout coupable d'avoir fait du mal envers Dieu, envers notre Créateur, en transgressant ce que lui attend de nous. Et c'est ce qui fait que nous faisons face à un jugement, à une punition, à la colère qui vient de Dieu, du Dieu juste que nous avons personnellement offensé. Et c'est ce qui fait que nous avons besoin d'un sauveur. Et Noël, c'est l'annonce de la bonne nouvelle, l'annonce de la naissance de ce sauveur. Mais là, on peut se demander, mais comment est-ce que ce petit bébé dans une crèche pourrait être le sauveur du monde? Comment est-ce qu'il peut me sauver? Bien, c'est là qu'il ne faut pas s'arrêter à la naissance de Jésus. Ce petit bébé a grandi, il est devenu adulte et il a vécu une vie parfaite dans l'obéissance totale à Dieu. Il a fait ce qu'aucun de nous n'a réussi à faire. Et puis, il a été mis à mort sur une croix. Et c'est là que nous voyons comment Jésus sauve. C'est là que nous comprenons la raison de la naissance de Jésus. En fait, pour comprendre la naissance de Jésus, il faut comprendre sa mort. Pour comprendre Noël, il faut comprendre Pâques. Pour comprendre la crèche, il faut comprendre la croix. Parce que c'est là, sur cette croix, que Jésus prend sur lui le jugement que nous méritons. Nos offenses, nos transgressions, il apaise la colère de Dieu qui était dirigée envers nous. Non pas qu'il était obligé de le faire, mais il le fait par amour. Il le fait précisément pour sauver tous ceux qui croient en cette vérité. Et c'est ce qui fait que Noël est une si bonne nouvelle. Jésus est né et il va enfin nous permettre d'être en bonne relation avec Dieu, notre Créateur. Il y a un moyen d'être sauvé, d'être pardonné de toutes nos fautes. Il y a un moyen de repartir à zéro. Et on comprend maintenant, en voyant ceci, pourquoi la naissance de Jésus et une si bonne nouvelle. Oui, le Messie est né et c'est celui qui va nous sauver. Mais maintenant, il faut se demander, troisièmement, notre troisième question, pour qui est-ce qu'il est né ? À qui est-ce que cette naissance s'adresse ? Et on va terminer en se demandant ceci. Et pour faire ça, on doit s'arrêter sur les bergers. On voit dans cette scène qu'il y a des bergers qui sont dans un champ, qui gardent les moutons, puis les anges vont arriver, un ange va arriver leur annoncer la naissance de Jésus. Mais c'est surprenant que la naissance de Jésus soit annoncée à eux. Et pas seulement annoncée à eux, mais annoncée pour eux. Si on voit ces versets, dans le verset 10, il est dit, l'ange leur dit, « N'ayez pas peur, car je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. » L'ange est en train de leur dire, mais la naissance du Messie, les amis, c'est pour vous. Ça vous concerne. Et là encore, on voit la simplicité de la naissance de Jésus, la simplicité de Noël. Sa naissance n'est pas annoncée au roi, aux puissants de ce monde, mais à des bergers dans un champ. Et les bergers ne sont pas ceux qui représentent la haute classe de la société, mais au contraire, ceux qui représentent ceux qui sont humbles, ceux qui sont plus faibles. Et c'est l'accomplissement ici de ce qu'on voit plus tôt dans l'Évangile de Luc, ce qu'on a lu tout à l'heure dans le Cantique de Marie, où il est dit que par la naissance de Jésus, Dieu a renversé les puissants, il les a fait descendre de leur trône, et il a élevé les humbles. Et c'est ce qu'on verra dans toute la vie et le ministère de Jésus. Il va aller vers ceux qui sont rejetés, vers les pauvres, vers les exclus de la société. Pas vers ceux qui sont orgueilleux et qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de lui, mais vers ceux qui sont humbles et ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, ceux qui reconnaissent qu'ils sont malades et qu'ils ont besoin d'un médecin, ceux qui reconnaissent qu'ils sont pécheurs et qu'ils ont besoin d'un sauveur. Pour saisir la grandeur de Noël, il faut être prêt à s'abaisser. Il faut être prêt à reconnaître, j'ai profondément besoin de ce petit bébé qui est là, dans la mangeoire. Oui, moi aussi, je suis pécheur et j'ai besoin d'un sauveur. Je n'ai pas juste besoin d'une aide spirituelle, d'une béquille religieuse. Je n'ai pas besoin juste d'habits chrétiens à rajouter, d'un déguisement en plus. Mais j'ai besoin entièrement de me confier en Jésus pour être sauvé. C'est mon seul espoir. Et c'est dur de reconnaître cela. C'est humiliant de reconnaître qu'on a fait faux, de reconnaître qu'on s'est trompé, de reconnaître qu'on a besoin d'aide, qu'on n'arrive pas à gérer notre vie par nous-mêmes. Mais c'est ce qu'on a profondément besoin et c'est ainsi seulement qu'on pourra saisir la beauté de la naissance de Jésus. Alors est-ce qu'on est prêt ce Noël à mettre de côté notre orgueil et à tomber à genoux devant Jésus, à être comme des mendiants qui ont désespérément besoin de lui ? Et ça nous permet de réaliser qu'il n'y a pas besoin d'atteindre la perfection pour saisir la beauté, la naissance de Jésus. Il ne faut pas être parfait pour s'approcher de Jésus. Il faut justement reconnaître qu'on ne l'est pas. Quand on fête Noël, on s'assure que tout soit beau, que la maison soit bien décorée, que la maison soit bien rangée, que la table soit bien mise. On s'assure d'avoir un beau repas qui est vraiment magnifique, qui est succulent. On s'assure d'être bien habillé, d'être impeccable, d'avoir le sourire sur les lèvres. Mais il faut reconnaître que nos vies normales, habituelles, quotidiennes, ne sont pas comme ça. Elles ne sont pas bien rangées. Nos vies sont parfois chaotiques. En fait, nos vies sont plutôt comme la cuisine après le repas de Noël ou le lendemain, avec toute la vaisselle qui traîne, avec les restes et avec les odeurs un peu désagréables. C'est plutôt comme ça que sont nos vies si on est honnête. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus n'est pas venu pour ceux qui pensent avoir une vie bien rangée, une vie en ordre, qui pensent tout gérer par eux-mêmes. Non, Jésus est né pour ceux qui n'arrivent pas à vivre comme ils devraient vivre et qu'ils en sont conscients, pour ceux qui reconnaissent qu'ils sont faibles, qu'ils sont malades spirituellement, qu'ils sont incapables de tout maîtriser par eux-mêmes, pour ceux qui sont brisés par la réalité de ce monde, qui sont brisés par le péché et par les conséquences du péché, pour ceux qui sont conscients qu'il y a des choses qui ne vont pas avec leur vie. Et cela, les amis, c'est vous et c'est moi. C'est chacun de nous. J'ai été frappé par un chant il y a quelques semaines, quelques mois. J'avais déjà parlé de ça un jeudi soir et je veux juste terminer avec ça. C'est une version modifiée, en fait, du chant qu'on a entendu avec la chorale. On a entendu « Ô peuple fidèle ». Et là, ce chant-là s'appelle, alors c'est en anglais, mais ça s'appelle « Ô peuple infidèle », si on devait le traduire. Et le but de ce chant, c'est justement de montrer qu'il n'y a pas besoin d'être parfait pour venir à Jésus. Le chant qu'on a entendu avec la chorale, il commence en disant « Ô peuple fidèle, Jésus vous appelle, venez triomphant joyeux, venez en ces lieux. » Mais l'auteur de ce chant, Lisa Clow, elle demande « Mais qu'est-ce qui se passe quand on n'est pas joyeux ? Qu'est-ce qui se passe quand on n'est pas triomphant ? Qu'est-ce qui se passe quand on est infidèle ? Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas venir à Jésus ? Non, justement, c'est là qu'on a besoin de lui et c'est là qu'on peut s'approcher de lui. » Et elle raconte, l'auteur de ce chant, que la raison pour laquelle elle a écrit ce chant, c'est une période difficile de sa vie où elle luttait non seulement avec des épreuves personnelles, mais aussi avec le péché, avec des attitudes de sa part qui n'étaient pas bonnes. Et elle se sentait si indigne, si incapable de venir à Jésus. Et elle veut parler dans ce chant de ceux qui sont infidèles, ceux qui sont instables, ceux qui sont faibles, ceux qui sont coupables, qui sont amers, qui sont brisés par la réalité de la vie, en disant « Venez à Jésus, c'est là que vous pouvez trouver le pardon. » C'est là que vous pouvez trouver la paix. Christ est né aussi pour vous. Alors bien sûr, le chant de la chorale est magnifique et j'enlève rien aux paroles qu'on a chantées. Je pense que c'est tout à fait vrai et tout à fait biblique. Ce peuple fidèle dont il est question dans le chant, au peuple fidèle, c'est justement ceux qui reconnaissent qu'ils ne le sont pas. Ceux qui reconnaissent qu'ils ont besoin de Jésus pour le sauver et qui s'attendent à lui. Ceux qui viennent à Jésus triomphants, joyeux, parce que lui, il est la solution. Ceux qui reconnaissent, comme le chant le dit, que Jésus est venu sur la terre fléchir la colère de Dieu, notre Créateur, qu'il est venu sauver le pécheur. C'est seulement ainsi, seulement en réalisant cela, qu'on pourra venir à Jésus, triomphant, joyeux, parce que lui, il est ce que nous avons besoin. Nous, nous sommes pécheurs et il est ce sauveur, parce qu'on aura réalisé à quel point on a profondément besoin de lui. Alors j'espère que c'est une vérité qu'on pourra saisir, peu importe où on en est, par rapport à la découverte de la foi chrétienne, par rapport à l'avancement dans la foi chrétienne, de réaliser que nous avons tellement besoin de ce petit bébé qui est né dans une crèche. Et je vais juste prier pour terminer avant qu'on passe à la suite de notre culte. Prions. Oui, notre Dieu, nous te remercions pour la bonne nouvelle de la naissance de Jésus, parce qu'il n'est pas venu pour ceux qui pensent voir, pour ceux qui pensent être en bonne santé, pour ceux qui pensent que tout va bien avec leur vie, et qu'il est venu pour ceux qui se reconnaissent aveugles, ceux qui se reconnaissent malades, ceux qui reconnaissent qu'ils sont brisés par la réalité de ce monde, par la réalité de leur cœur qui est mauvais. Merci pour cette bonne nouvelle de la naissance de Jésus, qui nous donne une bonne relation avec toi. Nous te prions que ce Noël, nous puissions, au-delà de tout ce qui est bizarre, anormal et triste pour ce Noël que l'on fête dans cette année 2020, on puisse saisir la source de la joie que Jésus apporte en réglant le problème de notre cœur qui est mauvais. Et on prie ça dans le nom de Jésus et pour sa gloire. Amen.